Bonjour, mademoiselle.
Bonjour.
Merci d'être là, Lé Marie-Hélène, également cofondatrice des fonds Julie Thorne. Cette fondation est née en 2012, oui, suite à quand même un événement plutôt tragique. Peut-être, Marie-Hélène, vous pouvez nous en parler.
Oui, moi, je suis Marie-Hélène Thorne. Le fonds Julie Thorne a été créé à la suite du décès de ma petite sœur, Julie. Julie Thorne était dans son cours d'éducation physique, était en secondaire 5, puis est en train de discuter avec son professeur sur le banc, puis est tombée sur le sol, elle a eu des convulsions, puis par le suite, l'enseignant a fait les manœuvres de réanimation. Il n'y avait pas de défibrillateur sur les lieux, puis l'ambulance est arrivée environ une dizaine de minutes plus tard et a été transportée à l'hôpital Saint-Eustache, et c'est là que finalement, après des manœuvres encore de réanimation, ils ont constaté son décès.
Est-ce que votre jeune sœur, Marie-Hélène, était connue pour avoir des problèmes de santé cardiovasculaire?
En fait, non, pas du tout. Puis même par la suite, on a fait différents tests. Puis pour le moment, ils n'ont pas trouvé la problématique. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout le monde qui est connu cardiaque qui va avoir un accident. Ça pourrait arriver à peu près à n'importe qui.
Ce qui a été également conclu par le coroner à cette époque-là, c'est que s'il y avait eu un défibrillateur, peut-être que votre sœur aurait pu être sauvée.
Oui, c'est ça. En fait, c'est sûr qu'on peut pas dire à 100% que ça aurait sauvé sa vie, mais c'est sûr que ça aurait donné un pourcentage de chances de survie supplémentaire.
Et c'est l'amie de votre sœur, Marie-Hélène, qui, je pense, a eu l'idée de cette fondation.
Oui, exactement. Moi, déjà, depuis quelques années, là, je donne des formations de premiers soins de RCR aux jeunes. Et donc, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai appris ça et quand j'ai entendu que pour les commissions scolaires, c'était pas une priorité, les défibrillateurs dans les écoles. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, soit pour sensibiliser la population ou du moins poser un geste concret là, pour acheter des défibrillateurs.
Pas une priorité, peut-être parce que l'on croyait, tout comme moi, que ça touchait pas les enfants, les adolescents, des arrêts cardiovasculaires.
Mais il y a aussi le fait qu'on peut considérer que dans les écoles, il n'y a pas seulement des enfants, mais il y a des personnes de tous les âges, les grands-parents qui vont voir les jeunes jouer, par exemple, au basketball pendant les fins de semaine. Il y a des tournois, il y a plein de choses, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Comment ça s'est articulé au départ? Bon, il y a l'idée qui naît, cette envie de poser un geste concret, mais après, bon, vous êtes toute jeune, vous l'étiez encore plus à ce moment-là. Vous êtes allée chercher de l'aide, du renfort pour aller de l'avant avec le projet?
Oui, exactement. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur le site de la Fondation du Grand Montréal.
Oui.
Donc, cette fondation-là, en fait, gère plusieurs fonds. Je leur ai envoyé simplement un email pour savoir comment ça fonctionnait, comment créer un fonds, si je pouvais le faire tout d'abord ou si ça prenait beaucoup, beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Finalement, ils se sont avérés super gentils. C'est très, très simple de créer un fonds même. Et c'est vraiment eux là, qui ont vraiment tout monté le projet, qui articule tout ça en fait.
Donc, c'est eux qui ont pu vous encadrer et peut-être vous aider à établir ces objectifs. Quels sont-ils, ces objectifs-là, à moyen, à long terme? Bon, j'imagine de pouvoir offrir des défibrillateurs à des écoles. Combien d'écoles?
En fait, pour le moment, c'est un objectif à long terme, c'est sûr, parce que ça prend beaucoup de fonds pour, premièrement, juste mettre un DA, c'est quand même un bon montant. Si, en plus, on veut encadrer ça avec des formations, avec des défibrillateurs de pratique, pour que les jeunes sachent quand même comment l'utiliser.
Ben oui, parce que c'est une chose en avoir sur les lieux, mais après savoir l'utiliser, c'en est une autre.
Oui, c'est ça.
Le défibrillateur est une machine très, très simple à la base à utiliser. C'est sûr que la formation va aider à bien gérer peut-être le stress qu'amène la situation, mais à la base, le défibrillateur est vraiment fait pour le grand public. C'est très, très, très simple d'utilisation. Il fait presque tout par lui-même, en fait.
Et le but est de former tous les élèves d'une école, soit d'une école secondaire ou primaire, même primaire, ça peut être possible de les former pour ça?
Pour le moment, la Fondation ACT à qui on a remis des sous, eux forment seulement dans les écoles secondaires.
Deuxième cycle
du secondaire, oui.
Cette formation qui, justement, œuvre à mettre des programmes un petit peu partout au pays là, de formation et d'équipement à la défibrillation, ça coûte combien un défibrillateur?
Ça dépend des marques, en fait.
Ça dépend des modèles. Je dirais que ça tourne environ autour de 3000 $. Mm-hmm. Ça peut monter là, facilement.
Donc, facile à utiliser. Évidemment, on est à la radio. C'est difficile de faire une démonstration, mais il sert, pour les gens qui pourraient ne pas être familiers avec, avec le terme, il sert à faire une réanimation cardiaque?
En fait, le défibrillateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir corriger une mauvaise activité électrique au niveau du cœur. Okay. Donc, contrairement à ce que la population pense souvent, ça ne va pas repartir le cœur, mais ça va l'arrêter. Mm-hmm. Donc, on va l'arrêter en espérant qu'il reparte de lui-même. Pour ça, c'est sûr que c'est très important de jumeler la RCR.
Oui.
Mais la RCR seule, elle ne peut pas rétablir le rythme cardiaque par elle-même. Donc, mm-hmm. ça prend vraiment le choc du défibrillateur qui va nous aider à ramener le rythme électrique, là.
Et les avantages sont prouvés, notamment par la Fondation des maladies du cœur. Il y a plus de chances de survie lorsqu'on a eu la chance d'avoir un défibrillateur à portée de main.
Oui, c'est sûr.
Est-ce qu'on les connaît à peu près, ces avantages-là? Bon, je le disais tout à l'heure, 75%. Mais est-ce qu'on a d'autres données en ce sens?
Moi, j'avais regardé des statistiques par rapport à la Fondation des maladies du cœur qui disait que l'utilisation d'un DA... avec la RCR ferait doubler les chances de survie.
Mm-hmm. Donc, pas du tout à négliger. Là.
Non, pas du tout.
Évidemment. Bon, les avantages de les avoir dans une école, on les comprend parce qu'il y a des enseignants, comme on le disait tout à l'heure. La Fondation, maintenant, elle existe depuis tout juste 4 ans, là, à peu près. Est-ce que vous avez senti un changement des mentalités, une plus grande sensibilisation par rapport à cette mission-là?
Je dirais que dans les dernières années, là, de plus en plus, il y a des défibrillateurs dans les écoles, les arénas aussi. Mm-hmm. On a souvent entendu là, des événements tragiques dans les arénas aussi. Mais de plus en plus, oui, on remarque là, que les gens font un effort pour se procurer un défibrillateur, oui.
Mm-hmm. Donc, c'est tranquillement en train d'entrer dans les consciences. Et j'imagine justement qu'un événement tragique comme... s'est déroulé au sein de votre famille, Marie-Hélène, ça conscientise également d'autres familles à dire « ben j'en veux dans l'école de mon enfant, de mon adolescent. »
Oui, ça, en fait, c'est arrivé à la polyvalente de Montagne. Puis, par la suite, le maire de la ville en a fait mettre dans tous les édifices publics de la ville, comme vraiment pas longtemps après. Puis, dans les écoles de la commission scolaire, après quelques mois, il a commencé à en avoir presque partout. Puis maintenant, la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles en ont dans toutes les écoles.
Ah oui. C'est une fierté, ça, pour vous, les filles?
Bien, c'est sûr que oui. Est-ce que c'est directement lié à notre fonds? Je penserais pas, mais je pense que c'est déjà un bon pas là, vers l'avant pour davantage sensibiliser le public. Là.
Oui, et de pouvoir ne serait-ce qu'en parler, comme on le fait aujourd'hui, et de pouvoir dire au grand public, ben les arrêts cardiovasculaires, ça touche pas juste des gens d'un certain âge, des gens malades, des gens qui fument, des gens en surpoids. Non, ça peut toucher à peu près tout le monde, dont des jeunes et des adolescents. Ne serait-ce que de pouvoir nommer ça et d'être conscient de ça, ça ouvre un petit peu les consciences. Est-ce que c'est une façon, Marie-Hélène, aussi de... conserver le souvenir de votre sœur?
Oui, en fait, qu'est-ce que je trouve bien avec la Fondation, c'est que, justement, au lieu de que tout le monde l'oublie, que ça soit laissé de côté, en fait, c'est qu'on prend l'énergie qui était au départ négative d'un deuil, d'un décès, qui est quand même... c'est quand même lourd à porter, mais qu'on l'a transformé en une action positive qui peut toucher tout le monde. Puis, ben moi, en fait, je me dis, si la Fondation peut faire que on va sauver juste une vie, on va avoir réussi.
Oui. Pour vous, ne serait-ce que ça, ça serait très précieux. Mm-hmm. Mais vous avez d'autres objectifs. Ce serait quoi votre idéal d'argent amassé? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a un souhait ultime?
Le plus d'argent possible, ça va être... c'est sûr que c'est ça l'idéal, en fait, parce que on n'en a jamais trop. Il y a tellement d'écoles, c'est tellement dispendieux en même temps, un défibrillateur, que plus on en a... Si un jour toutes les écoles sont équipées de défibrillateurs, ben on utilisera l'argent pour former les gens en RCR, en premiers soins.
Ça, c'est infini.
Oui, 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 voilà. Et quand vous dites toutes les écoles, c'est toutes les écoles du Québec, là.
Mais ça serait bien. Puis en plus, mais c'est sûr que les grosses écoles, ça en prend pas juste un, en fait. Ce qui arrive, c'est que quand les écoles ils ont une grande superficie, comme 3 000 élèves, 4 000 élèves. Mais c'est sûr qu'il faut en mettre plus qu'un en plus.
Ouais.
Fait que ça fait des étapes de plus.
Ah oui, parce que c'est un défibrillateur. Il y a un ratio de personnes là, qui est lié à l'objet,
mais
à
ça,
l'instrument.
Oui. Ça prend une certaine quantité de temps à aller le chercher s'il est à l'autre bout d'une école qui est très, très grande. Donc, il faut quand même calculer que si ça prend 5 minutes à aller le chercher, 5 minutes revenir, on vient de... comme ça ne servit à rien du tout.
Oui, voilà. La création de ce fonds-là en 2012, ça vous a donné cette expérience de philanthropie appuyée par la Fondation du Grand Montréal, on le disait tout à l'heure. C'est quand même assez rare que de si jeunes personnes s'investissent à donner de leur temps, de leurs idées, de leur énergie. Ça vous a amené quoi, cette expérience de philanthropie?
En fait, personnellement, je pense que j'ai découvert que j'aimais ça partir des projets, mettre sur pied, comme faire des levées de fonds, par exemple. Puis, du côté personnel, professionnel aussi, ça fait que plus tard, je pense que je vais être plus à l'aise de partir des projets. Je vais travailler comme je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie. Puis, ça va peut-être m'aider à mettre sur pied justement des projets dans le milieu où je vais travailler.
Vous êtes éligible à revenir, assez bon pour la santé comme invité, Marie-Hélène. Comment on peut innover? Parce que, bon, on le sait, on est à une époque où, les organismes, les entreprises ont besoin de financement, de campagnes de financement. Il y a aussi l'avènement des médias sociaux qui changent vraiment toute cette approche. Comment on peut innover en philanthropie, vous qui êtes si jeune et, qui avez créé ce fonds-là en 2012?
C'est une belle question.
Oui, c'est une bonne question. Comment on peut innover? Bien, je dirais peut-être en allant chercher justement un public différent. Oui. On a tendance à focusser, je dirais, sur certains points, certains domaines, mais visiblement, les jeunes veulent de plus en plus s'impliquer, j'ai l'impression. Puis ça se fait facilement dans le domaine qu'on veut. Nous, on a choisi justement les défibrillateurs, mais n'importe quel jeune de notre âge, ou plus jeune même, peut s'impliquer facilement en allant chercher les bonnes ressources. Je pense que de cette façon-là...
Et c'est un petit peu un message de dire aux gens qui nous écoutent, notamment les jeunes, ne vous arrêtez pas si vous avez une idée qui vous tient à cœur, d'y aller jusqu'au bout avec...
Mais je pense que, justement, quand l'idée nous tient à cœur, on peut justement sensibiliser les gens. Puis les gens voient que le projet nous tient à cœur, puis on peut comme les convaincre des bienfaits de notre projet. Même si pour le moment, je pense que c'est... On n'a pas vraiment besoin de convaincre les gens, là.
Non, dans votre cas, c'est très concret et on voit tout de suite les bienfaits pour la communauté, pour la société également. On vous souhaite quoi dans l'avenir?
Moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, si on réussit à en sauver un, on aurait réussi.
Ça aurait déjà très gros, oui.
Eh bien, je vous le souhaite. On va diriger les gens vers la Fondation du Grand Montréal, oui. fgmtl.org. Il y a votre page, l'explication de la mission des fonds Julie Thorne. Également, est-ce qu'on peut inviter les gens à vous donner de l'argent? Comment on peut le faire?
Certainement. C'est très, très simple. En fait, en se rendant sur le lien, il va y avoir une section « Données ». Tout ça est confidentiel. Là, on peut rentrer nos informations de carte de crédit. Très simple et c'est fait, on choisit un montant.
Tous les dons sont bienvenus. Hein?
En fait, ben oui. Puis si, je pense que les gens écrivent aussi sur Google Julie Thorne, Thorn. Je pense qu'on a accès facilement à la page aussi. Puis on peut voir les différentes levées de fonds qu'on a fait aussi.
Eh bien, mesdemoiselles Marie-Hélène Thorne et Marie-Hélène Proulx, cofondatrices des fonds Julie Thorne, merci beaucoup de votre présence.
Merci à vous.
Merci.